Les émissions du Lot en Action, ce sont d'abord deux mensuelles de 2 heures chacune, en direct, sur les radios libres Antenne Doc et Décibel FM, mais ce sont également des reportages, des interviews, des rencontres radiophoniques que nous publions sur notre site, le Lot en Action.
Mais la vague est profonde, et le vent décédé,
et le vent décédé,
hey, la vague est profonde, et le vent décédé,
et le vent décédé,
de l'horizon qui ronde, une roule sans pitié, c'est la misère du monde, icône sanité.
En février 2016, en vacances dans le Var au Lavandou avec mes filles, nous avons croisé le Columbus, un des bateaux de la flotte du Sea Shepherd qui était en escale pédagogique pour quelques jours au port. Nous avons alors discuté avec les membres de l'équipage qui ont accepté de nous recevoir le lendemain pour une interview. Et cela tombait plutôt bien puisqu'une porte-parole de l'ONG devait venir de Toulon. Mais le lendemain, pas de porte-parole. Les membres de l'équipe embarrassés se sont malgré tout prêtés de bonne grâce au jeu des questions-réponses. Selon vous nous connaissez, nous avons souvent tendance à mettre le doigt là où ça fait mal. Le lendemain de la prise de son, Gwen, le plus capé des bénévoles présents que vous allez entendre dans ce reportage, nous a demandé de ne pas diffuser cette interview, ayant reçu quelques recommandations de l'équipe de la communication de Sea Shepherd de France. Entendez par recommandation une belle engueulade. Voilà pourquoi nous ne publions ce reportage que plus d'un an après. L'ONG du très controversé Paul Watson gère ses bénévoles avec une main de fer dans un gant de velours et tient toujours autant à maîtriser tous les aspects de sa communication. Que voulez-vous, le business est et reste le business, même pour les ONG pirates. Écoutons ce reportage de 27 minutes. Bon, on se retrouve sur le Columbus du Sea Shepherd, et après avoir vu énormément d'enfants passer qui sont venus faire des dessins, etc. Eh bien, on est entouré de bénévoles de Sea Shepherd. Alors, qu'est-ce qui s'y colle pour nous expliquer Sea Shepherd? Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Voilà. Gwen?
C'est à moi, à Gwen. Donc, Sea Shepherd est une ONG qui a été fondée en 1977 par Paul Watson, le cofondateur de Greenpeace, qui au départ était aussi que pour la protection des baleines. C'est-à-dire que les campagnes de Greenpeace ne lui plaisaient plus. Politiquement, on ne pouvait pas aller plus loin, en fait. Et nous occupons de l'écosystème marin, qui est à la base de toute vie sur Terre, pour du coup protéger la vie marine par rapport aux braconniers qui sévissent en mer.
Alors 77 à 2000, presque 17, ça fait 40 ans quoi, donc il s'est passé beaucoup de choses quand même en 40 années. Alors c'est vrai que Sea Shepherd est connu peut-être un peu, enfin en tout cas du grand public commence à être connu par rapport à ses actions, notamment par rapport aux baleines, parce qu'il y a eu un petit peu de communication, mais ça s'arrête pas là. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce que là on est au Lavandou, donc sur la Méditerranée, il y a des opérations qui se font ici sur la Méditerranée par rapport à l'écosystème, la défense de l'écosystème. On a parlé un petit peu tout à l'heure de nettoyage, de protection de zones marines. Sea Shepherd s'occupe aussi de pointer du doigt les incohérences qu'il peut y avoir au niveau de la politique européenne, au niveau de la gestion de la pêche, etc. Enfin voilà, est-ce qu'on peut aller un peu plus en détail?
Un peu plus en détail, bien sûr. En Méditerranée, en fait, en ce moment, on a même une campagne qui s'intitule l'opération Caprou, qui est entre Cannes et Saint-Raphaël. Il y a donc du coup une réserve où il est interdit de pêcher, où il y a seuls quelques petits pêcheurs professionnels qui sont autorisés à prélever du poisson. Mais toute autre pêche est interdite. Et nous sommes sur place pour patrouiller, pour faire de la prévention et pour prévenir les personnes qui risquent une grosse amende s'ils continuent leur braconnage.
Et alors c'est régulièrement constaté, c'est-à-dire que le prélèvement qui est fait par les c'est quoi, c'est les particuliers, c'est les pêcheurs?
L'opération est une initiative en fait de pêcheurs carrément de Saint-Raphaël. Donc ils ont préféré faire appel à nous, vu que nous sommes d'une organisation internationale. Nous avons beaucoup de bénévoles pour patrouiller avec eux, car il y a quand même un peu trop d'abus.
Donc là, c'est de la patrouille, surveillance, de la formation, l'information vis-à-vis
d'information, patrouille en kayak sur les côtes aussi, et prévention, et au cas où, on appelle la gendarmerie maritime, qui eux interviennent lorsqu'il y a vraiment infraction.
D'accord. Après, j'ai vu une opération aussi sur Sea Shepherd, évidemment, qui m'a un peu touché, qui était celle en Bretagne, on en touchait deux mots tout à l'heure, concernant le sable. Alors ça, on en parle peu, mais au niveau mondial, ça commence à être un vrai problème. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire un mot?
Alors, sur ce qui se passe dans le Finistère, c'est-à-dire au large de l'île de Sein, il y a beaucoup de prélèvements de sable. Donc ça bouleverse non seulement l'écosystème, mais aussi la vie des insulaires de Sein, qui est maintenant condamnée malheureusement. Et ce sable, pourquoi est-ce qu'il était extradé? C'est simplement pour des grosses entreprises, pour des gros chantiers qui se situent en Inde, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ça peut être au Qatar, ça peut être ailleurs. Et Sea Shepherd est d'accord, mais ne fait pas d'opération pour l'instant contre l'extraction du sable. Ça pourrait peut-être venir. En Bretagne, en revanche, il y a juste l'opération Guéland Rescue, qui consiste à récupérer les poussins dans la ville de Lorient, sur le port de pêche essentiellement et de commerce, de les soigner dans l'association Volée de Piaf, qui s'occupe de recueillir toutes sortes d'animaux pour les soigner et les relâcher.
Et alors, si j'ai peur d'aujourd'hui, en France, c'est combien de groupes? Parce qu'on parlait du groupe de Saint-Malo, etc. Enfin, ça représente combien de groupes?
Alors, nous sommes 15 groupes locaux. Donc ici, vous avez Hyères, vous avez Nice, vous avez Marseille, vous avez aussi Toulouse, vous avez La Rochelle, vous avez Saint-Malo, vous avez Lorient, vous avez Brest, Strasbourg, Lille, Besançon, si je ne me trompe pas, Lyon, qui sont très très présents, Montpellier, vous avez deux groupes locaux aussi de Paris.
Vous avez entendu les copains toulousains, on donnera les références à la fin de cet entretien. Et au niveau international, donc Sea Shepherd, c'est une gigantesque machine maintenant au bout de 40 ans. Donc ça représente combien de personnes? J'ai cru voir que le budget c'était à peu près 20 millions de dollars à l'année, mais faut faire tourner, il y a une flotte, enfin il y a une grosse flotte. Là c'est pareil qui s'y colle pour nous expliquer ça un peu, le nombre de bateaux en route, le nombre de bénévoles, de salariés, enfin tout ça quoi, comment ça fonctionne?
Cofumélisme manuel. Donc il y a 9 bateaux, 2 voiliers et il y a donc 7 autres qui sont en moteur. Et donc il y a un catamaran, il y en avait 2, il y en avait 2 noirs, un qui a été harponné par un bateau japonais. Maintenant il y a 2 nouveaux bateaux qui sont en mer en ce moment. Donc ils font des opérations, ils ont déjà commencé. Une opération pour au Mexique pour amasser les filets qu'ils ont laissés les pêcheurs. Donc ils sont en coopérative avec l'armée marine au Mexique. Et donc voilà, donc ils patrouillent aussi là-bas.
C'est-à-dire que là, c'est à la demande du gouvernement mexicain, carrément.
Voilà, ils ont intervenu, ils ont demandé que l'armée soit aussi parmi eux. Et donc, il y a des photos que j'ai vues qui montrent que, oui, l'armée est présente. Ils sont quelques marins qui sont dessus. Et que c'est eux qui interviennent, en fait, contre les pêcheurs qui font de la... quand ils font des trucs illégaux. Ils peuvent enlever les filets parce que c'est eux qui sont de la loi.
Et alors, au niveau global, Sea Shepherd d'aujourd'hui, c'est combien de salariés?
Alors nous avons juste 25 salariés qui sont à 100% pour les campagnes, la logistique, mais tout le reste de Sea Shepherd, c'est que du bénévolat.
Oh, on est loin de Greenpeace, là.
C'est pas la même politique, disons.
Et alors justement, ça c'est un côté qui m'intéresse, parce que après je redonnerai, à la fin de l'émission, je redonnerai des détails et les liens pour que les gens puissent se renseigner sur les campagnes. Mais comment ça fonctionne? Parce que voilà, une ONG comme celle-là, où il n'y a que 25 salariés, et qui globalement implique, j'imagine, énormément de gens et de compétences, parce qu'il faut les faire tourner, les 9 bateaux, enfin voilà, toutes les actions, etc. Qu'est-ce qui motive des bénévoles comme vous à vous engager auprès de Sea Shepherd?
Ce qui nous motive, je pense que tout le monde est d'accord avec moi, c'est arrêter de dépopulariser les océans, qui sont quand même vraiment le poumon de la planète. Donc, comparé, on va dire, à certaines ONG, nous préférons aller directement sur place en mer et faire un petit peu les gendarmes. Car nous intervenons que en cas d'infraction à la loi. Par exemple, pour la flotte baleinière japonaise, qui est actuellement en mer, malgré leur condamnation internationale en cours de justice, a repris la mer pour un but soi-disant scientifique, pour faire la chasse de 333 baleines pour cette année.
Alors, est-ce que c'est pas ça, je crois qu'on en discutait un petit peu en off tout à l'heure, est-ce que c'est pas ça finalement qui décide pas mal de bénévoles? Parce que, bon là je vais parler à titre personnel, hein, mais moi l'image que j'ai de Sea Shepherd quand même, c'est évidemment environnemental, au-delà de ça même, c'est sur un véritable réflexion sur l'avenir de la planète, et on est face à une société qui est extrêmement violente. Et qu'au final, on se dit ben voilà, que des activistes aujourd'hui qui ont la tête sur les épaules, alors il y a eu Paul Watson évidemment, qui est la figure emblématique, mais à un moment donné, de passer à des actions qui sont pas violentes, mais qui sont en réponse, parce que ben voilà, quand on est face à des tribunaux, etc., c'est long, on connaît le poids des lobbies. Et que finalement, ben voilà, des gens qui se mouillent et qui vont faire éprôner un bateau ou faire sauter quelque chose, ben finalement, est-ce que il faut pas qu'on en passe par là, quoi? Est-ce que ça fait partie des choses qui vous motivent? On a une fille parmi nous, j'aimerais bien qu'on l'entende.
Donc Laurie, oui effectivement, je pense que quand on est bénévole, on a d'autant plus de motivation, puisque la motivation n'est plus financière, elle n'est plus ça n'est plus un attrait par l'argent, c'est au-delà de ça. C'est un attrait, effectivement, on voit au-delà. On voit pour, effectivement, l'avenir de nos enfants, l'avenir de l'humanité. Parce que si on pousse le schéma plus loin, on se rend bien compte que, de toute façon, si on en vient à tuer les océans, on en vient à se tuer nous. Paul Watson, de toute façon, a écrit ce livre-là. Si les océans meurent, nous mourrons. Le message est clair. Mais de toute façon, voilà, si nous, on meurt, la Terre, elle se relèvera. Donc, à un moment donné, il faut bien être clair. Si nous, on est là, c'est pour sauver les océans, mais du coup, en lien, l'humanité. Donc, je pense qu'effectivement, en tant que bénévole, on a d'autant plus de motivation et d'implication et du coup, de... comment dire, d'énergie à développer que quand c'est juste un attrait financier. Et du coup, l'effet de se mouiller, c'est secondaire, on s'en fiche, c'est pas très très important tout ça. C'est au-delà de notre petite personne, notre petit ego d'humain. C'est au-delà de tout ça. C'est pour un ensemble de choses.
Voilà. Et alors cet engagement bénévole, il prend quelle forme? Parce que là, vous êtes globalement assez jeune quand même autour de moi. Et ça va être ponctuel ou c'est quelque chose qui... je ne sais pas, toi Gwen, par exemple, tu me disais que tu venais de Bretagne. Est-ce que c'est un engagement de plusieurs mois, sinédié? C'est-à-dire tu ne sais pas combien de temps, enfin...
Bien pour moi, c'est un petit peu intemporel en fait. Quand on prend la décision d'être, je ne dirais pas forcément activiste... mais de prendre des responsabilités, ne pas faire partie du problème, mais plutôt de la solution. Moi, je ne vais pas dire, allez hop, dans deux semaines, j'arrête. Non, pour moi, c'est un combat de vie, quoi. De toute une vie. Et il y a certaines personnes qui préféreraient faire voilà, du bénévolat et de l'activisme que pendant un ou deux mois, et très ponctuellement. Et du coup, pour moi, c'est un petit peu un non-sens. Car c'est quand on se bat pour une cause, c'est pour la vie.
J'ai envie de dire aussi...
Ton prénom?
Ah pardon, Brian. J'ai envie de dire, c'est aussi un combat de tous les jours dans la formation, dans la sensibilisation autour de nous, que ce soit la famille, les amis, le travail, c'est amener les gens à une prise de conscience, à une certaine réflexion, à s'informer. J'ai envie de dire aussi... À apporter sa pierre à l'édifice, et puis comment je pourrais dire, il y a plusieurs solutions, parce que les gens, quand on leur parle de justement chacun apporter sa pierre à l'édifice, ils nous trouvent toujours 36 excuses pour nous dire oui mais si, oui mais ça, et puis en fin de compte, parce que ils sont bien dans leur petit confort quotidien, et puis...
Leur liquide, c'est naissance. Et en gros, si on ne veut pas faire partie d'une cause, on se trouve toujours, comme tu disais si bien, des excuses. Il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Quand on veut vraiment s'engager, eh bien on passe outre beaucoup de choses. Que ce soit l'aspect financier, tout ça. Il faut aller vraiment de l'avant, en fait.
Alors ça, je crois qu'on le constate de plus en plus, hein, cet engagement citoyen, notamment des jeunes, hein, qui vont jusqu'au bout. Alors moi, je relève une chose sur Paul Watson que j'ai bien aimé, c'est ses paroles d'humble fanatique, pas fanatique, si c'est ça, humble fanatique, qui était qualifié d'autre part d'éco-terroriste, et moi je préfère le mot pirate, que je trouve assez intéressant. C'était rigolo d'ailleurs de voir tous les gamins qui repartaient avec cette idée de pirate, au revoir les pirates, enfin voilà, c'est quelque chose qui est assez chouette. Peut-être un mot quand même, parce que concernant, une question que j'ai envie de vous poser, parce qu'une des images qui revient souvent quand on parle de Sea Shepherd, c'est justement cette présence, et c'est toujours l'inconvénient, enfin le côté difficile d'avoir un personnage hyper charismatique, qui est venu, qui est super engagé, c'est de se dire de l'autre côté comment ça fonctionne au niveau de la démocratie, est-ce que les gens ont la parole, est-ce que ça marche bien, toujours difficile quand on a quelqu'un comme Paul Watson qui vient et qui sait de quoi il parle, enfin qui est là, et est-ce qu'il y a vraiment une concertation au sein de l'ORGA, comment ça fonctionne. Je ne sais pas si vous avez pu, vous, en tant que bénévole, approcher déjà de Paul Watson, et puis des prises de décision qui sont faites au niveau global, en fait.
En fait, il faut savoir qu'il y a Sea Shepherd Global, donc qui gère toutes les campagnes internationales et toute l'association. Mais il y a aussi, par exemple, Sea Shepherd France, vous avez Sea Shepherd Germanie, Hollande, tout ça. Et vis-à-vis de l'organisation, c'est très démocratique, tout le monde a le droit aussi à la parole. Et Paul Watson, par certaines personnes, est un petit peu affiché par cette image un peu de gourou,
car il y a beaucoup de détracteurs en fait qui l'ont qualifié de gourou et aussi de pirate. C'est d'ailleurs pourquoi le logo Sea Shepherd existe. C'est du sarcasme en fait.
Ouais, ça c'est plutôt une qualité. Enfin, c'est plutôt sympathique comme image, non?
Ah bah ça dépend. Comment est-ce qu'on
peut percevoir
le pirate? Voilà, c'est sûr. Hein.
Ça dépend.
C'est pas celui qui, avec son tricorne, voilà, je vais aller chercher mes doublons d'or, je vais me saouler la gueule au rhum. Non, c'est pas du tout. C'est pas notre vision, je trouve, du pirate correct à l'heure actuelle, quoi. C'est plutôt des personnes qui se mouillent et qui risquent leur vie pour un écosystème qui est en danger.
Alors, un petit mot peut-être sur le. Bon, là, on est plus sur le général, mais Paul Watson venait au départ, il faisait partie de Greenpeace, hein, et je sais qu'il y a eu très récemment là, une position un peu surprenante de Greenpeace concernant la chasse aux phoques. Ah. Ouais, je suis désolé, je viens dessus, mais justement, parce que c'est l'occasion d'en parler, quoi. Un peu délirant, c'est vrai qu'on se pose la question en disant, mais qu'est-ce qu'il leur a pris à Greenpeace? Du coup, je sais qu'il y a le numéro 3 de Greenpeace qui a envoyé un mot à Paul Watson, enfin voilà. Vous pouvez nous en dire un mot, là?
Voilà, ça va être aussi une opinion personnelle, mais comment dire, hypocrite, quoi. Quand on part, malheureusement, Greenpeace s'est un petit peu écarté d'un chemin d'éco-guerrier en prenant, en fait, la chasse aux phoques, qui ont été le point de départ de leur combat chez Greenpeace. Et porter de la fourrure de phoque en se disant, on va dire, éco-citoyen, je trouve ça très, très hypocrite. Et Paul Watson, oui, s'est insurgé, car ça a été une des premières personnes à se mouiller, à aller directement en face des trappeurs en disant, non, vous n'avez pas le droit, vous êtes en inégalité totale. Et lorsqu'on voit, du coup, le numéro 3 de chez Greenpeace parader comme ça avec ses manteaux-là, on se dit, mais... C'est un non-sens. C'est un total non-sens.
Bon, après, est-ce qu'on n'a pas besoin, après aussi, c'est toujours un peu compliqué, mais est-ce qu'on n'a pas besoin de... Greenpeace, c'est pas Sea Shepherd, c'est clair, quoi. Non. Mais est-ce qu'on n'a pas besoin aujourd'hui, alors même si on peut... c'est toujours toute organisation, il y a du plus et il y a du moins, quoi. Est-ce qu'on n'a pas besoin aussi d'organisation ou d'ONG qui soit peut-être un peu plus politiquement correcte, qui puisse intervenir, je pense notamment aux actions de Greenpeace vis-à-vis du nucléaire, qui sont plus consensuelles, mais dont on a besoin, parce que ça permet de réveiller l'immense masse des indécis, ou en tout cas de leur faire se poser des questions, voire même ces mêmes indécis qui, à un moment donné, pourraient être percutés par des actions plus radicales, qui, à mon sens, sont nécessaires. Mais comme si c'est Shepherd, donc peut-être on a besoin des deux. Et au final, on se dit, voilà, c'est ce qui fait râler. On se dit, bon, voilà, ils se tirent un peu dans les pattes. Voilà, ce mot de Greenpeace à Paul Watson, ça fait un peu râler. Mais on se dit, c'est peut-être un peu dommage, sans savoir où on a la faute, mais se dire, peut-être on pourrait travailler quand même, ces organisations pourraient travailler un peu main dans la main, quoi.
Après, j'ai envie de dire, c'est pas faute d'avoir essayé, hein, lors de nos campagnes en Antarctique, qu'eux, ils étaient dans la zone, qu'ils pouvaient être susceptibles de connaître la position des baleiniers. Je crois même qu'il y a un moment où Greenpeace était au courant de la position des baleiniers japonais et n'a jamais voulu la donner à Sea Shepherd.
D'accord. Dernier petit mot quand même sur qui moi m'intéresse particulièrement, c'est, alors après je connais pas assez le personnage, mais concernant Paul Watson, c'était une déclaration qu'il a faite en 2007 concernant, et que je partage en partie, concernant le taux de supportabilité, entre guillemets, de la Terre par rapport au nombre d'habitants. Donc on en parlait un peu en off, en disant qu'il y a un équilibre. Alors c'est un sujet super délicat, parce que dès qu'on parle de ça, on parle de malthusianisme, et de malthusianisme, ben voilà, il y a cette bien-pensance libérale là, qui nous fait peur à tous, et froid dans le dos dès qu'on est un petit peu au courant. J'imagine évidemment que, parce que c'est que cette phrase-là qui a été ressortie et sortie de son contexte, et ça me semble intéressant, parce que quand on parle de problèmes essentiels, ça c'est un des problèmes essentiels, et comment on y arrive? Donc du coup, c'est le raccourci, c'est bah oui, mais si on a 1,5 milliard, il va falloir en tuer 4,5 milliards, qui c'est qu'on va choisir, etc. C'est évidemment que c'est pas ça. Mais si on va au-delà de ça, on est sur la notion de la répartition des richesses, comment fait-on la gestion du bien commun, et la planète fait partie évidemment du bien commun. Est-ce que par rapport à ça, il y a quelqu'un qui veut s'exprimer?
Effectivement, je pense qu'il y a... Bon, c'est sorti de son contexte, déjà. On est clairement d'accord là-dessus. Je pense surtout qu'il y a un gros problème, c'est qu'on constate que déjà les richesses, les ressources, sont utilisées par un très faible pourcentage de toute la population. Donc là, on a un gros problème. On a un gros problème aussi, c'est que les systèmes, surtout des pays développés, en fait, on vit d'une manière indéfinie dans un monde défini. Donc en fait, on consomme, on use, on abuse. Et après, on se dit, on a un gros problème, on ne peut pas nourrir toute la planète. Ok, non, on pourrait. On a des solutions, on a ce genre de choses. Et effectivement, à un moment donné, il y aurait tout à fait peut-être une logique à pouvoir se dire, peut-être à pas, comment dire... C'est une question à se poser sur la population. Peut-être se dire, est-ce que c'est responsable de faire autant d'enfants? Peut-être des enfants qui ne sont pas éduqués de la bonne façon. J'entends pas une éducation, mais une éducation citoyenne, une éducation terrienne, responsable vis-à-vis de l'endroit où on vit, de respecter son lieu d'habitation et ce qu'elle nous procure, puisque... Elle nous procure tout ce qui fait qu'on puisse évoluer dessus. Et je pense que c'est là le discours de Paul Watson, en fait. Je pense que pour lui, c'est dur de devoir se battre en face de générations qui n'ont aucune idée de l'impact qu'ils ont sur la vie et donc, en conséquence, sur l'humanité. Et je pense que l'idée est là. Pour lui, c'est plutôt de donner... une nouvelle génération plus consciencieuse et donc peut-être une génération plus faible à ce moment-là.
Et vous, perso, par rapport à ça, parce qu'effectivement, je crois qu'on en arrive à la notion de répartition des richesses et donc du système, nommons-le, capitaliste tel qu'il est là, il ne s'agit pas de faire d'idéologie, mais qu'à un moment donné, quand une toute petite poignée d'êtres humains possède l'essentiel des richesses sur cette planète, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, et puis juste en ajoutant un mot, c'est-à-dire quand on s'aperçoit qu'on a un taux de natalité énorme dans les pays, disons, sous-développés, voilà, le mot émergent, tout ça est insupportable, d'hypocrisie, en voie de développement, mais quand on en parlait un petit peu tout à l'heure, quand on donne aux gens le moyen d'envoyer leurs enfants à l'école, l'accès aux soins, la retraite, ou en tout cas la collectivité qui assure mais on s'aperçoit que le taux de natalité diminue grandement. Donc, effectivement, peut-être que les voix, elles sont là. Mais alors, vous, en tant que. Voilà, c'est les jeunes, la jeune génération, là, par rapport à ça. Est-ce que vous avez. Comment vous positionnez par rapport à ça?
Est-ce que t'en es là?
Voilà, il y a le blanc.
peut-être en tant que femme. En tant que femme, effectivement, je ne me vois pas, procréer pour procréer. oui, aujourd'hui, je préfère peut-être, comme je disais tout à l'heure, peut-être adopter ou ce genre de choses pour pouvoir peut-être apporter un plus à ma planète, à l'humanité, plutôt que de procréer pour procréer. Mais c'est... Nous aussi, à un moment donné, on a été en voie de développement et nous aussi, du coup, on s'est vu faire enfant sur enfant parce que on s'est relevé de guerre, on s'est relevé de choses. Je pense que ça, on ne peut pas l'empêcher. Par contre, et je pense que des ONG, des associations, elles sont là aussi pour réveiller les consciences à se dire « attention ». Il faut qu'on prenne en compte, il faut qu'on ait des responsabilités citoyennes, des responsabilités terriennes. Et bien sûr que c'est compliqué de priver quelqu'un de son droit essentiel. Bon, il y a certains pays qui l'ont fait, hein, mais de priver son droit essentiel à un humain, de dire tu dois t'arrêter là et arrêter de procréer là. Mais je pense que quand un pays se développe, automatiquement il régule puisque le système financier, sociétal... lui impose ça indirectement, puisqu'il ne peut pas nourrir une famille de 10, 20, 40 enfants à vitam aeternam, quoi.
Alors, si j'ai peur de l'organisation, j'imagine que vous avez besoin de fonds, évidemment, hein, parce qu'il faut faire tourner toute cette flotte, etc. Vous avez besoin aussi de bénévoles. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui nous écoutent pour leur donner envie, soit de rejoindre, d'appeler Sea Shepherd Toulouse, par exemple, si nous on est dans le Lot, voire même d'y aller en se disant ça peut être génial, je vais consacrer, les trois, j'ai rien à faire les trois prochaines années, allez hop, je m'engage pour Sea Shepherd.
Tout à fait, pourquoi pas.
Car en fait, vous qui nous écoutez, si vous souhaitez venir nous rencontrer, nous faisons souvent des stands à terre pour expliquer un peu plus en détail ce qu'est Sea Shepherd, les campagnes que nous avons effectuées. Et c'est un engagement qui peut être de tout à chacun, quoi. C'est-à-dire de donner du temps pour aller faire des événements autour de la jeunesse, avec les enfants comme aujourd'hui, leur expliquer certaines choses, car ce sont eux en fait le futur, et la nouvelle génération qui va arriver, ça est super importante. Nous sommes que les vecteurs en fait de certaines idées pour apporter de plus en plus de solutions, quoi, en fait.
Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir le pied marin, c'est-à-dire que on peut très bien s'engager, voilà, il y a plein de choses à faire, de compétences.
J'ai envie de dire, il y a plusieurs manières, parce qu'il y a le volontariat en mer, il y a le volontariat à terre aussi. Après, bon, c'est pas forcé un engagement, que ce soit dans le temps ou dans la durée. Je veux dire, ça peut être un week-end où, je veux dire, quand on a du temps de libre. Moi, je vois, par exemple, j'ai papa, j'ai ma famille, j'ai mon boulot, et donc c'est sur le temps qui me reste que voilà, si je peux aller donner un petit coup de main, aller sur un stand, aller faire un petit peu de sensibilisation, un petit peu d'information, voilà. Après, les gens qui veulent aussi aider l'organisation et qui n'ont pas de temps, il y a d'autres manières aussi. Par exemple, on vend des t-shirts, des vestes, plein de goodies, on va dire, à côté, qui servent, il faut le savoir, à financer les campagnes, la maintenance des bateaux et tout ce qui s'ensuit. Donc il y a plusieurs façons de participer, de rejoindre le mouvement, j'ai envie de dire, voilà.
Bon, voilà les copains, bon entendeur. En tout cas, à tous, merci de votre accueil. C'était génial et merci pour votre engagement, pour tout ce que vous faites. On s'est croisé avec Gwen par hasard et je lui disais merci par rapport à cet engagement pour tous, pour la défense du bien commun. Et puis, j'ai envie de vous dire bon vent.
Vous l'aurez compris à l'écoute de ce reportage, nous aimons bien l'engagement de l'ONG Sea Shepherd, de ses salariés et des centaines de bénévoles qui œuvrent pour la préservation des océans. Même si la guerre entre Greenpeace et Sea Shepherd est usante pour les défenseurs engagés de l'environnement. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à visiter le site de Sea Shepherd France, www.seashepherd.fr. A très bientôt.